Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu bon et un Dieu qui désire nous parler. Seigneur, on est là ce matin parce qu'on veut t'écouter, on veut entendre, on veut comprendre, on veut mettre en application ce que tu veux nous communiquer. Et Seigneur, je veux te demander que ce que je vais dire maintenant, ce ne soit pas juste quelques mots qui titillent notre intelligence, mais que ce soit toi qui nous parles au plus profond de notre être, toi qui touches notre esprit, Seigneur. Et on veut te demander de continuer à opérer ton œuvre de transformation dans nos vies. La chose la plus précieuse qu'on puisse vivre en tant que chrétien, c'est d'avoir une vie transformée par ton esprit. Et ce matin, c'est ce que je veux demander pour chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais commencer avec une petite devinette. Moi, j'aime beaucoup les devinettes. Quel est l'aspect de Dieu dont on parle le moins souvent? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah, pardon? Et jaloux. Ah, pas mal. Pas loin. Les émotions. Hein, on touche un peu à ça aussi, ouais. Ah, j'ai entendu plusieurs réponses en même temps. La passion, c'est ça? Sa colère, bingo. Alors, je dois avouer que je n'ai pas fait une étude exhaustive sur le sujet, donc c'est une supputation de ma part, mais je ne pense pas prendre trop de risques en disant que la colère est un des aspects de Dieu dont on parle le moins souvent. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez entendu parler de la colère de Dieu? La dernière fois où vous avez parlé de la colère de Dieu autour de vous, que ce soit à un enfant, à un ami, à un collègue. La colère, c'est un truc qui n'est pas trop à la mode. C'est négatif. On préfère parler de trucs positifs au sujet de Dieu. Son amour, sa bonté, sa grandeur, sa puissance, sa générosité, etc. C'est plus vendeur. Mais en fait, on n'est pas là pour vendre Dieu. On est là simplement pour être des témoins de qui il est, tel qu'il se révèle à nous dans sa parole. Alors, Manu l'a dit, aujourd'hui, on démarre une nouvelle série. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Et on s'inspire pour cela d'un livre du pasteur John Piper qui relève 50 raisons dans la Bible pour lesquelles Jésus va mourir. Alors, on n'a pas fait une série de 50 dimanches pour voir chacune de ces raisons. On a fait un petit florilège de 4. Et le premier aujourd'hui, c'est que Jésus est venu pour détourner la colère de Dieu. Alors, d'abord, on va parler de la colère de Dieu. Ensuite, on va voir en quoi Jésus est venu pour détourner la colère de Dieu. Et ensuite, on va parler un petit peu de la colère de l'homme, de nous. Alors, oui, Dieu se met en colère, et j'espère que ce n'est un scoop pour personne. Alors, on n'aime pas trop en parler. Certains évacuent même cette idée un peu gênante en disant « Oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament. On a le Dieu de l'Ancien Testament qui se met en colère, mais le Dieu du Nouveau Testament, alors lui, il est plutôt amour. » Mais c'est totalement faux de faire une telle distinction. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors pour la peine, je vais vous emmener dans les évangiles. Et vous connaissez peut-être le discours de Jean-Baptiste qui disait à ceux qui venaient à lui, en tout cas à certains d'entre eux, « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ?» On voit que pour Jean-Baptiste, ainsi que pour les gens à qui il s'adresse, la colère de Dieu était quelque chose d'évident, que personne ne remettrait en cause. C'était une réalité inéluctable. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrivait « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » Et dans le chapitre suivant, on prend un morceau un petit peu plus gros, « Or nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imagines-tu, toi qui juges, ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. D'abord le juif et aussi le non-juif. L'apôtre Paul venait de parler dans le chapitre précédent de ceux qui rejettent Dieu, de ceux qui sont méchants, médisants, arrogants, orgueilleux, etc. Et il rappelle que le sort de ces personnes est lié à la colère de Dieu, qui implique un jugement, une condamnation, un châtiment. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul ici en parle sans aucun complexe. C'est pas « oui, bon, c'est vrai, Dieu est un peu colère ». Non, il y va franco. Alors, voyons maintenant, qu'est-ce qui déclenche la colère de Dieu ? Donc, comme on l'a vu dans le premier verset que j'ai cité tout à l'heure, la colère de Dieu se manifeste contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Contre ceux qui étouffent ainsi malhonnêtement la vérité, qui vivent dans le mensonge, autrement dit, qui sont dans le déni au sujet de Dieu. Troisième raison qui suscite la colère de Dieu, c'est ceux qui rejettent Dieu malgré l'évidence de sa révélation. Et dans le chapitre 1, il y a quelque chose qui peut nous surprendre, qui dit que les hommes sont censés voir Dieu à travers sa création. C'est ce que les théologiens appellent la révélation générale. Chacun d'entre nous peut voir quelque chose qui est censé nous faire nous poser des questions et dire « il doit y avoir un Dieu ». Et malgré tout, les gens sont coupables de rejeter Dieu. La raison suivante qui suscite la colère de Dieu, c'est l'idolâtrie. Au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles. Une idole, ce n'est pas forcément juste une statue ou une représentation. C'est tout ce qui attire notre adoration d'autre que Dieu. Ceux qui pratiquent l'injustice et la méchanceté. Et dans le chapitre 1, on a toute une liste de ces choses-là. Envie, vice, jalousie, meurtre, querelle, trahison, perversité, médisance, calomnie, arrogance, orgueil, fanfaronnade, ingéniosité au mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté. Ils sont insensibles, impitoyables. Et le pire, non seulement ils commettent ces choses-là, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Enfin, la dernière raison que j'ai relevée dans ce passage-là, c'est que les gens qui commettent tout ça refusent de changer de comportement. Et d'une certaine manière, ils se moquent donc de la bonté et de la patience de Dieu. Si on est encore vivant aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a été assez fort pour résister à la colère de Dieu. C'est juste que Dieu est patient. Il nous a laissé encore un peu de temps pour que nous puissions changer, nous puissions nous repentir. Alors derrière tous ces reproches que Paul transmet aux chrétiens de Rome, on retrouve en fait rien de nouveau. C'est ce qu'on avait déjà dans l'Ancien Testament. Tous les passages qui évoquent la colère de Dieu, on retrouve les mêmes raisons qui suscitent sa colère. Et ça me fait penser, par exemple, au déluge. Ça me fait penser aux Israélites qui ont dû poireauter 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient râlé contre Dieu. Ça me fait penser au livre des juges, où on a ce cycle qui se répète sans arrêt. Le peuple désobéit à Dieu, Dieu envoie son châtiment pour le punir. Ensuite, le peuple appelle à l'aide, Dieu lui envoie un chef, un héros, entre guillemets, pour le sauver, etc. Et ça recommence, et ça recommence. Et puis, l'histoire du peuple d'Israël, avec le royaume du Nord qui a été déporté par les Assyriens, celui du Sud par les Babyloniens, etc., etc. Toutes ces choses-là qui suscitent la colère de Dieu. Alors, on pourrait se dire que la colère de Dieu, c'est contradictoire avec son amour, mais pas du tout. J'ai réfuté tout à l'heure la fausse croyance que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu de colère et que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu d'amour. Et je l'ai fait en illustrant mon propos, en citant des textes du Nouveau Testament pour parler de la colère de Dieu. J'aurais pu faire l'inverse aussi et vous montrer dans des passages de l'Ancien Testament qu'il était aussi question de l'amour de Dieu. Mais j'aimerais surtout dire maintenant que de dire cela est un contresens total. La colère de Dieu et l'amour de Dieu ne s'opposent pas. Ils sont cohérents, ils vont ensemble. La colère, en tout cas celle de Dieu, est l'expression de sa sainteté et de sa justice. Et l'amour de Dieu est d'autant plus puissant que Dieu n'a pas fait de compromis ni avec sa sainteté, ni avec sa justice. Si Dieu était un peu tolérant avec le mal, qu'il était un peu laxiste, son amour serait moins fort, serait un peu plus dilué. Alors j'ai essayé d'imaginer une image, ça vaut ce que ça vaut. Imaginez que vous êtes amoureux d'un prince ou d'une princesse. Si ce prince ou cette princesse est sale, pue, est habillé en guenille, est tout le temps ivre, shooté, est en train de manger et rôter en même temps qu'elle vous parle, eh bien son amour aura peut-être moins de valeur que celui du prince ou de la princesse idéale que vous vous représentiez. Bon, cette image a ses limites, hein, mais le fait que Dieu ne se soit livré à aucun compromis sur sa sainteté ou sur sa justice donne d'autant plus de poids à son amour. Voyons maintenant quelques caractéristiques au sujet de la colère de Dieu. Alors, en préparant ce message, j'écoutais d'autres messages sur le même thème, et dans l'un d'entre eux, un pasteur faisait remarquer que de tous les synonymes du mot colère qu'on retrouve dans la Bible, il y en a deux qu'on ne retrouve pas à propos de Dieu. Alors, on retrouve l'indignation, la fureur, le courroux, qui est un mot un peu plus ancien, pas de la colère. Par contre, on ne trouve pas l'emportement. On ne trouve pas non plus l'irascibilité. Bon, c'est des mots qu'on n'utilise plus trop, hein. L'emportement, c'est quand on est dépassé par nos sentiments. Et donc, dans le cadre de la colère, on s'enflamme, et finalement, on ne maîtrise plus ce qu'on fait. Ce n'est pas le cas de Dieu, heureusement. L'irascibilité, c'est un caractère un peu plus permanent qui fait qu'on va se mettre très vite en colère, et souvent. Il suffit d'une petite étincelle, d'un mégot de cigarette jeté par la fenêtre pour embraser toute une forêt. Aujourd'hui, on dirait plutôt de quelqu'un qu'il est soupe au lait. Alors, vous avez tous peut-être fait cette expérience de vouloir faire chauffer du lait dans une casserole et que tout d'un coup, bouf, ça boue, ça sort. C'est super rapide, on n'a pas le temps de voir venir. Ça vient de là, soupe au lait. Alors, c'est tout le contraire de Dieu. Dieu ne se laisse pas emporter. Dieu ne part pas en colère au quart de tour. Au contraire, ce qu'on peut lire dans la parole de Dieu, c'est que Dieu est lent à la colère. Il y a plein de passages qui disent ça. Dieu est lent à la colère. Et souvent, c'est associé avec cette expression « et il est riche en bonté ». Alors j'ai voulu vous montrer la première occurrence dans laquelle on nous dit ça à propos de Dieu, c'est dans le livre de l'Exode, quand Moïse revient une deuxième fois vers Dieu pour qu'il lui dicte les tables de la loi. La première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était descendu de sa montagne après avoir vécu une expérience incroyable avec Dieu et il trouve le peuple en train d'adorer un veau d'or. Aïe ! Moïse s'était mis en colère, à juste titre, et il avait même cassé les tables de la loi qui qu'il venait de recevoir de la part de Dieu. C'est intéressant que c'était un passage qui parlait déjà de colère. Et c'est là que Dieu se révèle, alors on va lire, « L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. » Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Alors certes, Dieu se met en colère. Il traite avec intransigeance le pécheur et ne tolère aucun péché. Et comme on l'a lu là, il ne traite pas le coupable en innocent, parce que Dieu est juste. Mais, par-dessus tout, le désir de Dieu, c'est de faire grâce. De faire compassion. Et moi, ça me fait penser à Jonas, le prophète Jonas, et c'était justement cet aspect-là de Dieu qui l'énervait, que Dieu faisait grâce et faisait compassion. Sa mission, c'était d'aller dire aux gens de Ninive, alors Ninive, c'était la capitale du peuple assyrien qui avait, c'était les ennemis du peuple d'Israël, donc Jonas était envoyé là-bas pour leur dire « Dieu va vous punir, Dieu va vous châtier parce que vous êtes mauvais, qu'est-ce qui se passe ?» Les gens le prennent au mot, ils se repentent, et Dieu leur fait grâce. Et c'est là que Jonas se met en colère. « Je le savais que tu étais un Dieu de grâce, qui était compatissant et t'allais pardonner à nos ennemis !» Alors, la colère de Dieu a pour cause sa sainteté et sa justice. Passons maintenant à la deuxième partie. Que Jésus détourne la colère de Dieu. Alors, je pourrais résumer cette deuxième partie par une seule image, celle d'un paratonnerre. Jésus est un paratonnerre. Qu'est-ce qu'un paratonnerre ? C'est quelque chose, je crois que c'est une forme de pointe qu'on met au-dessus d'un toit et qui a pour objectif d'attirer la foudre quand il y a un orage, de telle sorte que la foudre soit canalisée, attrapée par ce paratonnerre, plutôt que ne s'abatte ailleurs sur la maison ou autour. La colère de Dieu, c'est comme cette foudre. Quand les conditions sont réunies, la colère de Dieu doit éclater à un moment ou l'autre. Sinon, il y aurait injustice. Et ce que fait Jésus, c'est comme ce paratonnerre, de s'attirer à lui, cette colère de Dieu, pour éviter qu'elle ne détruise tout le monde autour de lui. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Quand on voit la croix, on peut penser à un paratonnerre. Ensuite, je vais vous parler de sacrifice d'expiation. Oh là 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 là, ça commence à sentir les gros mots là. Vous allez me dire, cette image du paratonnerre, c'est quelque chose de sympa, c'est bien gentil, mais comment ça marche tout ça ? Dans le contexte de l'époque, c'était peut-être plus facile pour les gens de comprendre cette histoire de sacrifice d'expiation. Parce que dans les religions antiques, il était courant de penser qu'il fallait un sacrifice pour apaiser, la colère d'une divinité. Et c'était le cas en particulier dans le judaïsme. Et on avait tout un système de sacrifices dont certains avaient pour vocation de calmer la colère de Dieu. Et pour expliquer un peu ce que c'est que cette expiation, mourir pour, à la place de, pour couvrir la faute, on peut penser à ce qui s'est passé à la première Pâque en Égypte. Alors vous voyez cette image à gauche, quelqu'un qui badigeonne les linteaux de sa porte avec du sang. C'était un sacrifice que les Israélites qui étaient en Égypte étaient censés faire juste avant leur sortie d'Égypte. On était à la fin des 10 plaies d'Égypte. Et la 10e plaie, c'était que l'ange de l'Éternel allait tuer le premier-né de chaque famille en Égypte, sauf de ceux qui auraient suivi ces règles un peu bizarres, de manger un agneau, de l'égorger, prendre son sang et badigeonner les linteaux de la porte. Ça, c'était des règles qui étaient données aux Israélites. Et ça leur a permis d'être épargnés par cette dernière plaie. Donc cet agneau qui était mis à mort permettait de mourir à la place du premier-né mâle de chaque famille israélite qui recourait à cela. C'est encore un peu bizarre pour nous, hein, on n'est plus trop dans cette logique-là. Mais ça nous explique quand même ce que c'est que l'expiation. Voilà ce qu'on peut lire au sujet de la mort de Jésus sur la croix. On est toujours dans le livre aux Romains. C'est lui, donc Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Alors, ce passage-là, il parle de la patience de Dieu. Quelque part, ça pouvait être choquant de se dire que le peuple d'Israël, notamment, qui avait un peu abusé avec la patience de Dieu et qui n'était pas encore puni tout de suite, c'est qu'il était au bénéfice de la patience de Dieu. Mais Dieu était quand même juste pour autant. Il a juste reporté son châtiment. Et donc Jésus est venu accomplir ce châtiment parfait. Et c'est ça qui permet à Dieu aussi de déclarer juste aujourd'hui ceux qui croient en lui. Alors j'aimerais juste vous donner une autre image, une autre petite anecdote. Je pense que c'est une histoire inventée, mais qui explique un peu ce que ça peut être que cette expiation. C'est l'histoire de deux jumeaux, des vrais jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais pendant l'adolescence, ils prennent des chemins opposés. Le premier fait les 400 coups, il décroche à l'école et il sombre dans le larcin, dans le crime. L'autre est plus sérieux, il poursuit dans ses études et il finit par être magistrat. Un beau jour, le premier jumeau se fait attraper après avoir tué quelqu'un. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il découvre que le juge qui va juger son cas n'est autre que son frère jumeau. Il se dit c'est bien ma chance, je vais peut-être bénéficier peut-être d'un peu plus de clémence de sa part. Mais le jour J, le jugement tombe. Coupable, peine capitale. L'accusé n'en revient pas. Son propre frère le condamne. Il ne comprend plus rien. Pendant la nuit, il reçoit la visite de son frère. Il lui dit « Mais pourquoi as-tu fait ça? Je suis ton frère !»« Je sais, mais je ne pouvais pas faire autrement. La loi, c'est la loi. » Ce que tu as fait mérite cette condamnation. C'est sans appel. Mais la suite de l'histoire est encore plus surprenante. C'est que le juge fait une proposition à son frère jumeau. Celle d'échanger leurs habits, d'échanger leur vie. Vu leur ressemblance physique, les autres n'y verraient que du feu, en tout cas au début. Et là, avec cette image, avec cette histoire, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce frère, ce juge, il n'a pas transigé avec la justice. Et en même temps, il a manifesté son amour pour son frère. De la même manière, Dieu n'a pas transigé avec la justice, ce que mérite notre péché. Mais il a manifesté son amour en prenant à notre place, par son Fils Jésus, notre condamnation. Alors, pourquoi est-ce que ça devait être Jésus? Ça n'aurait pas pu être un super mouton? C'est que Jésus, c'est Dieu fait homme, semblable à nous. Pour que ça puisse nous représenter, nous remplacer, il fallait qu'il soit le plus proche de nous. Donc il fallait qu'il soit homme. Mais il fallait aussi qu'il soit 100% pur, irréprochable. Il fallait que la victime offerte en sacrifice soit sans défaut, sans tâche. Et ça, Les Israélites le savaient bien. Puisque c'était dans les prescriptions des sacrifices, il fallait qu'ils choisissent une bête sans défaut. On ne veut pas offrir à Dieu la brebis galeuse. Ça n'aurait pas de valeur. Voilà comment il fallait que ce soit Jésus qui prenne ce châtiment à notre place. Avant de terminer, on va parler un petit peu de nous, de la colère des hommes. Et la première remarque qui s'impose, c'est de dire que la colère des hommes n'est pas exactement la même que la colère de Dieu. Et souvent, je pense que ce qui nous pose problème pour parler de la colère de Dieu, c'est qu'on transpose sur Dieu ce qu'est la colère pour nous. La colère des hommes, en général, c'est pas joli joli. Normal. Nous sommes des pécheurs, frappés par la déchéance qui va avec. On a vu tout à l'heure que la colère de Dieu avait pour raison sa sainteté et sa justice. Au contraire, la colère de l'homme, bien souvent, est liée à son péché. Forcément, ça ne va pas se manifester de la même manière. Contrairement à Dieu, comme on a vu tout à l'heure, l'homme, lui, peut s'emporter. L'homme peut être irascible ou soupolé. L'homme peut perdre son contrôle. Et ça, ça peut être grave. Ça peut aller loin. D'autant plus que l'homme en question a du pouvoir. Et on peut avoir peur, à raison, quand on voit des hommes soupolés avoir le pouvoir d'appuyer sur une bombe atomique. Ça peut être dangereux. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alors, dans la lettre de l'apôtre Jacques, il dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est le contraire de Dieu. La colère de Dieu accomplit sa justice, mais pas celle de l'homme. Ça, c'est la différence principale entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Alors, vu tout ce qu'on a dit de négatif au sujet de la colère de l'homme, on pourrait vite être tenté de conclure que, pour l'homme, la colère, c'est un péché. Mais c'est un raccourci qui est faux. Déjà, on a vu que Dieu lui-même se met en colère, donc ce serait gênant de dire que la colère est un péché. On voit que même Jésus, sur terre, n'était pas le dernier à se mettre en colère. Il s'est mis en colère contre les marchands du temple, contre un figuier, contre les pharisiens qui venaient l'embêter, etc. On peut dire que la colère est une de nos émotions élémentaires. Alors, qui a déjà vu le film « Vice versa » ? C'est un film qui met en scène, entre guillemets, le fonctionnement de nos émotions. Et donc, les personnages que vous voyez là sont des personnages qui représentent 5 émotions élémentaires. Et on retrouve colère aux côtés de joie, tristesse, peur et dégoût. Et là, sur l'image, ils sont dans la salle de commande du cerveau d'une jeune adolescente, Riley. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit comment il commande et il suscite les réactions de l'enfant face aux situations qui l'entourent. Chacune de ces émotions a un rôle. Chacune d'entre elles est utile. Et s'il y en a une qui commence à faire grève et pas faire son travail, il y a des déséquilibres. La colère a sa place. La colère est quelque chose qui nous a été donné pour réagir contre le mal, contre l'injustice. Et cette émotion nous donne une énergie pour lutter contre le mal, pour lutter contre l'injustice. Ça me fait penser, alors je ne sais pas si vous avez joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de temps en temps, et ce jeu Super Mario, où parfois, quand il avait une étoile, il devenait invincible, il allait tout vite, et puis il pouvait passer, prendre des pièces partout, et ça marchait super bien. Mais d'avoir une émotion comme ça, parfois, ça peut nous aider à décupler nos forces. Mais c'est difficile à maîtriser avec la colère. Hein. Mais ça peut être utile. Alors, dans quelle situation est-ce que ça peut être utile? Par exemple, quand on est parent ou enseignant, et qu'on doit éduquer des enfants. Quand les enfants se comportent mal, Il faut qu'on puisse réagir. Si on est trop mou et qu'on laisse faire, d'une part, on va se laisser déborder, mais aussi, pour l'éducation de l'enfant, ça peut être très mauvais. L'enfant ne pourra pas se construire correctement s'il n'a pas les bonnes limites. Et j'avoue que parfois, je me demande si je ne devrais pas être un peu plus réactif et un peu plus en colère, au sens bon du terme, dans mon éducation pour mes enfants. Mais la colère est difficile à maîtriser. Alors, regardons le verset suivant. Donc, on est dans une autre épître de Paul aux chrétiens d'Éphèse, et il dit « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable. » Alors, on peut être surpris qu'ici, Paul semble cautionner que les chrétiens se mettent en colère. Ce qui semble être contradictoire avec ce qu'on peut lire dans des recommandations qu'il fait aux chrétiens ailleurs. Mais la chose intéressante, c'est que tout de suite, il tempère en disant « Mais ne commettez pas de péché. » Et ça nous fait clairement comprendre que ce n'est pas la colère qui peut être un péché en tant que tel, mais qu'elle peut y donner facilement accès. Ça peut commencer par des mauvaises pensées, et ça peut très vite se décliner dans des paroles mauvaises, voire des actes violents. Et en s'installant dans une colère, c'est comme si on tendait le bâton pour nous faire battre. Il y en a un qui attend que ça, les chrétiens se mettent en colère pour ensuite avoir une emprise sur eux. La colère reste très dangereuse et difficile à manier. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, dans son célèbre sermon sur la montagne, parle de la colère contre un frère comme d'un meurtre. De la même manière que juste après, il dit qu'un regard chargé de désir est déjà un adultère. Bon, alors, ayant dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre colère? Alors, je ne suis pas un expert en gestion de colère et je ne suis pas là pour faire une conférence sur le sujet. J'aimerais juste relever deux choses, deux éléments que j'ai trouvés dans les textes bibliques. Le premier, c'est un conseil pratique. Et le deuxième, j'allais dire, c'est une piste un peu plus profonde pour une transformation plus en profondeur. Alors, le conseil pratique, c'est ce que nous venons de lire dans le verset « Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil ». Ça, c'est une règle qu'on devrait avoir en tête. Il ne faut pas qu'on s'installe dans notre colère. Il faut vite éteindre le feu. Imaginez qu'un feu se déclenche dans une forêt. On ne va pas attendre que ça se passe. Vite, il faut agir vite, le plus vite possible. Et peut-être que dans le cas particulier d'une relation de couple, on a la personne, ou la personne est près de nous en tout cas, ne nous couchons pas avant d'avoir réglé ce problème de colère. La colère, ça détruit des vies. Ça nous détruit nous-mêmes, psychiquement, mais ça détruit aussi des relations, le nombre de relations qui sont brisées par la colère. Et alors, quand on est chrétien, on a la chance de pouvoir nous adresser à Dieu dans toutes circonstances, et notamment dans nos épreuves, et notamment quand on est emporté par la colère. On a cette chance de pouvoir nous remettre à lui, de pouvoir venir à lui dans la prière et lui demander de l'aide pour en sortir. Et la deuxième chose, c'est que quand il y a eu des blessures dans une relation, on peut vivre une réconciliation. Dieu nous aide à expérimenter concrètement la puissance dans nos relations en vivant le pardon. Et pour vivre le pardon, ça commence par la repentance. Et j'allais dire, au cœur du message de l'Évangile, donc la base du message chrétien, ça commence par prendre conscience de notre péché et de nous repentir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit refaire et refaire chaque fois qu'on a de nouveaux péchés, nous repentir. C'est la voie qui ouvre à la libération, à la délivrance. Et Dieu va nous donner la force de le faire et nous permettre de vivre le pardon, voire jusqu'à la réconciliation. Ça, c'était pour le conseil pratique. Pour guérir plus en profondeur, on peut penser à ce texte de l'épître aux Galates, encore une autre épître, où Paul oppose deux manières de vivre. La première manière de vivre, selon les traductions, on parle de la vie naturelle ou de l'homme charnel dans des traductions plus anciennes, et ici dans la Semeur, de l'homme livré à lui-même. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'homme livré à lui-même ? Ces gens-là sont pleins de haine, de querelle, de jalousie. Ils ont les accès de colère, des rivalités, des dissensions, des divisions. Et encore, ce n'est qu'un extrait. Alors que du côté de la vie selon l'Esprit, donc transformé par Dieu, le fruit de cet Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est justement le contraire de l'emportement dont on parlait tout à l'heure. L'opération que fait Dieu en nous par son Saint-Esprit, c'est justement d'apprendre à nous maîtriser, parmi les autres bonnes choses qu'on a listées à l'instant. La colère est un symptôme, et un bon médecin ne se contente pas de soigner le symptôme. Il va chercher un traitement qui va soigner la cause du symptôme, la maladie qui est à l'origine du symptôme. Et donc ici, ce dont on parle, c'est de s'attaquer pas uniquement au symptôme, mais à la racine. Et la maladie qui provoque une mauvaise colère parmi d'autres mauvaises choses, c'est le péché, c'est le rejet de Dieu. Et le seul remède contre ça, c'est la repentance. C'est de croire que Jésus peut nous enlever notre culpabilité. C'est de croire qu'il a véritablement souffert en sacrifice pour détourner la colère de Dieu et nous sauver, ce que nous avons vu juste avant. Donc le remède contre une mauvaise colère malsaine, parmi ces autres mauvaises choses qu'on a pu lister, c'est simplement de vivre l'essentiel, la base de l'Évangile, et de laisser Dieu reprendre le contrôle de notre vie. Ça se fait progressivement. J'aime bien utiliser l'image qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé, c'est quelqu'un qui est en chantier constamment. Et l'ouvrier qui mène ce chantier, c'est le Saint-Esprit. Laissons-lui faire ce travail. Alors, on va conclure. La première chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'on change notre regard sur la colère de Dieu. Oui, Dieu se met en colère, et ce n'est jamais un défaut. Ne soyons pas dérangés par la colère de Dieu, car c'est quelque chose qui est bon. C'est quelque chose qui témoigne de sa justice et de sa sainteté. De plus, Dieu reste maître de lui-même, il est lent à la colère. Son projet principal, c'est de faire grâce. Et quand on a pris au sérieux la colère de Dieu, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de cette grâce, qu'on a besoin d'être sauvé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de Jésus-Christ. Lui seul pouvait servir de paratonnerre. Lui seul pouvait attirer à lui-même la foudre de la colère de Dieu et en protéger ceux qui croiraient en lui. Et je pense à ce texte, l'Évangile de Jean qui dit « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. » Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Dans des traductions plus anciennes, c'est « Qui croit au Fils a la vie. Qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. » La clé, c'est de croire en Jésus-Christ, de lui faire confiance. Et peut-être que ce matin, ce sujet de la colère résonne en vous, avec une ou plusieurs situations où votre colère vous a pourri la vie. Peut-être qu'elle a brisé une relation, peut-être qu'elle vous a détruit intérieurement. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il n'est jamais trop tard pour regarder à Jésus-Christ et lui demander de venir à votre secours, de vous libérer des conséquences de cette colère et de vous enlever les conséquences de la mauvaise gestion de votre colère. L'œuvre de Dieu en vous, par son Saint-Esprit, c'est de produire ce fruit qui passe par un désir de repentance, par le pardon et la réconciliation. On va finir avec un temps de prière. On va demander à Dieu de continuer d'intervenir dans nos vies. Et peut-être que vous aurez envie de pouvoir continuer dans la prière et de prier avec quelqu'un. Et je veux me tenir à disposition si l'un ou l'autre d'entre vous a besoin de prier avec quelqu'un à la fin du culte. On pourra se mettre par exemple dans la cuisine. Si vous voulez qu'on puisse courtement prier ensemble, si vous avez une situation pour laquelle vous voulez qu'on puisse se remettre à Dieu. Courbons nos têtes. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas honte de dire que tu es saint et que tu es juste et heureusement. Et merci parce que tu ne t'écrases pas face au mal, tu ne t'écrases pas face au péché, mais tu fais justice. Merci parce que tu n'as jamais transigé avec cela. Et merci parce que ton amour est d'autant plus grand. Merci parce que tu ne veux pas nous laisser pourrir, moisir dans notre colère. Mais tu as trouvé cette solution, ce paratonnerre en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Nous avons tous besoin de ce paratonnerre. Nous avons besoin de ton pardon. Merci parce que tu nous l'as accordé et qu'il nous suffit simplement de l'accepter, de le saisir, de le recevoir. Seigneur, je veux te prier ce matin si certains d'entre nous ont encore du mal à accepter ce cadeau tellement il est invraisemblable. Je te prie pour que tu nous aides à le recevoir pleinement. Seigneur, je veux te remercier aussi parce que tu agis concrètement dans nos vies en transformant nos cœurs. Merci pour ce fruit que tu produis par l'action de ton esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, etc. Maîtrise de soi. Et je te prie pour ceux d'entre nous qui souffrent particulièrement d'un manque de maîtrise de nous-mêmes. Et je te prie pour que nous puissions expérimenter, aujourd'hui même, dans les semaines qui viennent, une véritable délivrance, une véritable libération pour expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ dans nos vies et être délivrés de ces colères. Père, à toi seul soit la gloire.